Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga.
Radio Oméga.
103.9 Ouaga, 104.7 Bobo-Dioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité.
Brigitte Yoda.
Au sommaire de l'actualité de la mi-journée, le chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, était hier au camp Sangoulé-Lamizana pour s'enquérir de l'état de santé des FDS blessés sur le champ de bataille. 28e édition du FESPACO, 15 films dont le long-métrage fiction Sira de la Burkinabé, Apolline Traoré, sont en lice pour les talents d'or de Yenenga. La fête du cinéma africain va se tenir du 25 février au 4 mars prochain. CHAN 2022, l'Algérie s'est offert la Libye hier 1-0 en match d'ouverture. Les Lions de l'Atlas, eux, ne participeront finalement pas à la compétition, faute d'avoir reçu l'autorisation des autorités algériennes pour s'y rendre en avion. Et l'invité de la rédaction est Paul Sondo, contrôleur général de police à la retraite. Il est également écrivain. Avec lui, on parle du phénomène de la mendicité à travers son œuvre intitulée « De la mendicité aux opportunités ou aux enfers ». Bonjour à toutes et à tous. Visite inopinée du chef de l'État au centre médical des armées. Le capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des armées, est allé s'enquérir vendredi de l'état de santé des combattants blessés et internés au centre médical des armées, sis au camp général Aboubakar Sangoulé-Lamizana. Les précisions avec Yacouba Wilio.
Le capitaine Ibrahim Traoré a encouragé et souhaité un prompt rétablissement à ses hommes blessés dans les combats face aux groupes terroristes. Le personnel soignant n'a pas été oublié. Le chef de l'État a déclaré dans ce sens que lorsqu'on est engagé et qu'on sait qu'à l'arrière, on prend soin de vous, on se donne à fond. Des instructions fermes pour une résolution des difficultés urgentes du centre médical des armées ont été données, peut-on lire sur la page officielle de la présidence du FASO. Une visite qui remonte le moral de l'avis du docteur central des services de santé des armées, le colonel-major Mustapha Sérémé. Elle apportera, selon lui, plus de détermination dans la prise en charge. Le chef de l'État a saisi l'occasion pour visiter la direction de l'action sociale des armées. Là-bas, il a demandé plus de diligence dans le traitement des dossiers des soldats tombés pour une meilleure prise en charge des familles.
Sur le théâtre des opérations, la gendarmerie nationale prend à nouveau ses quartiers à Falangoutou. Un an après leur départ et au lendemain de la double attaque qui a ciblé des localités des provinces du Séno et de l'Oudalan, la gendarmerie nationale est de nouveau de retour dans la commune de Falangoutou, a appris Oméga Média de sources concordantes. Le point avec Jean-Paul Ouédraogo.
Le drapeau national a été hissé dans l'enceinte de la gendarmerie à Falangoutou, sous le regard des populations qui ont accueilli avec liesse le retour des Pandores, explique une source contactée par Oméga Média. Et toujours selon la même source, les hommes de la commune, pour marquer leur joie, ont débarrassé la cour de la gendarmerie des mauvaises herbes et les femmes, elles ont nettoyé les bureaux de la brigade de la gendarmerie. Une lueur d'espoir après les événements du 11 janvier 2023 qui ont endeuillé la commune de Falangoutou et le village de Goulungoutou, respectueusement dans les provinces du Séno et de l'Oudalan. En effet, deux volontaires pour la défense de la patrie VDP ont été tués mercredi suite à une incursion d'un groupe armé terroriste à Falangoutou. Après le Séno, la série noire s'est poursuivie dans la soirée du 11 janvier dans la province de l'Oudalan où 9 personnes, des fidèles et imams, ont été tués dans une mosquée par des individus armés non identifiés.
Et du fait de la menace terroriste, on dénombre près de 5000 fonctionnaires qui ont quitté les localités où ils exerçaient au compte de l'État. L'Assemblée législative de transition a donc convoqué le gouvernement vendredi en vue d'apporter des solutions à leur situation. Il a aussi été question de la régulation des informations sur les réseaux sociaux. Les échanges ont eu lieu hier à l'hémicycle à Ouagadougou, le point avec Moumouni Tamboura.
Monsieur le ministre, quel est le point des fonctionnaires concernés et quelle stratégie pour leur redéploiement à court, moyen et long terme?
La première salve d'interrogation part de Daniel Zungrana. Après une démonstration implacable faisant le lien entre terrorisme, insécurité et nécessité de survie qui pousse les fonctionnaires à fuir leur poste, le député escompte les réponses du ministre de la fonction publique pour mieux éclairer la population. 4773 fonctionnaires sont touchés selon les statistiques de Bassolement Bazier. Et pour certaines régions, les chiffres font sursauter.
Et en ce qui concerne la région de la boucle du Mourne, nous avons pu dénombrer 1776 agents qui ont été touchés par la question d'insécurité. Au niveau de la région des Cascades, il y a 245 agents qui ont été touchés. La région du Centre-Est, il y a 118. La région du Centre-Nord, il y a 678. La région de l'Est, il y a 437. La région du Sahel nous indique 1057 agents qui ont été touchés.
D'ores et déjà, des agents sont redéployés dans les zones plus paisibles. Mais il n'y a pas que les agents du public qui ont fui le danger du terrorisme.
Vous comprendrez très bien que le ministère de la fonction publique, ça aussi a comme mission à son niveau le travail. Donc il y a les travailleurs aussi du privé, ce qui fait que la loi code du travail qu'on avait transmise, qui est toujours dans les coulisses, concerne également la prise en charge de ces agents.
Bassolement Bazier n'était pas le seul ministre à faire face aux interrogations des membres de l'ALT ce matin. Le député Daniel Zungrana, toujours lui, s'interroge à nouveau sur la propagation de fake news, divulgation de documents confidentiels, mais aussi les accusations visant à ternir l'image d'hommes aux commandes du pays. Et quand le député Zungrana s'interroge sur de tels sujets, c'est Jean-Emmanuel Ouédraogo qui répond.
En janvier 2022, il y avait environ 6 millions d'utilisateurs d'Internet au Burkina Faso, pour une population de plus de 21 millions d'habitants. L'état des manquements dans l'utilisation des réseaux sociaux. L'Internet, les médias et les réseaux sociaux sont de formidables outils de facilitation des rapports entre individus et d'interpellation démocratique. Cependant, ils sont de plus en plus utilisés de façon inappropriée par les usagers, au mépris du respect de la réglementation en vigueur, de la vie privée des citoyens, à même de mettre en mal le vivre ensemble et la cohésion sociale. À cela, il faut ajouter les atteintes aux données personnelles sur les réseaux sociaux qui se manifestent par l'usurpation d'identité ou vol d'identité, la collecte illicite de données personnelles, les atteintes au droit à l'image, le cyberharcèlement.
De ces questions orales de l'ALT au gouvernement, on apprendra du ministre de la Communication que des mesures sont en cours pour une meilleure régulation des réseaux sociaux et des médias, et ce, dans le but de ne pas faire le jeu des groupes armés terroristes.
Et l'État est reconnaissant envers les gendarmes qui se battent pour assurer la protection des biens et des personnes. La gendarmerie nationale a récompensé ces hommes qui se sont positivement illustrés au Burkina Faso et ailleurs. Elle a organisé hier vendredi une cérémonie de décoration au titre de l'année 2022. L'objectif de cette cérémonie de distinction présidée par le chef d'état-major général des armées, le colonel David Cabré, les galvaniser et les inviter à redoubler d'efforts, Jacob Compaoré et Charles Da pour le compte-rendu.
Ils sont au total 201 récipiendaires composés d'officiers, de sous-officiers à recevoir leur distinction pour bons et loyaux services rendus à la nation. Parmi eux, deux officiers élevés au rang d'officier de l'ordre de l'étalon. Deux officiers dont l'un n'est nul autre que chef d'état-major de la gendarmerie nationale himself, le lieutenant-colonel Evra Somda.
Donc cette décoration pour moi aujourd'hui, je la dédie à tout le personnel que j'ai l'honneur de commander aujourd'hui, le personnel de la gendarmerie nationale. Je la dédie particulièrement au personnel que j'ai commandé durant les 5 dernières années passées. Je la dédie plus particulièrement aux hommes à qui on a commandé de partir. Ils sont partis et ils ne sont pas revenus. Ils ont payé le prix du sacrifice suprême. C'est également une invite à persévérer dans les efforts afin que la victoire soit rapide.
Les ordres auxquels les gendarmes sont élevés vont de chevalier de l'ordre de l'étalon à celui de chevalier de l'ordre du mérite burkinabé. Trois officiers sont jugés dignes de la médaille d'honneur militaire et de la médaille militaire.
Adjoint chef de l'Abdelaziz, je suis reconnaissant à ma hiérarchie pour la distinction. Et aussi cette médaille est un honneur fait à ma modeste personne. Et il m'invite à persévérer dans le travail bien fait pour la sécurité des personnes et les biens. Notre mission.
Des Pandores distingués pour leur œuvre au pays, mais aussi pour leur ardeur au travail dans les opérations de sécurité et de maintien de la paix à l'extérieur. Sur ce plan, deux gendarmes reçoivent la médaille commémorative avec agrafe Guinée-Bissau. D'autres, plus de la centaine, dont 9 femmes, arborent désormais la médaille commémorative avec agrafe Mali.
Les préparatifs de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, vont bon train. Le comité d'organisation a dévoilé vendredi à Ouagadougou les films en compétition. Il y en a 170 au total, répartis dans 11 catégories. Et dans toutes ces catégories, plusieurs films burkinabais sont en compétition, dont le film long-métrage fiction d'Apolline Traoré intitulé Sira, qui va à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga, compte rendu de Valérie Guéry.
Sur 1200 films enregistrés, 170 films ont été retenus, dont 30 films burkinabais, pour compétir à cette 28e édition du FESPACO. Une édition qui se tient en moins de 2 ans pour le délégué général du FESPACO. C'est un FESPACO qui se tient dans un contexte sécuritaire assez difficile, mais toutes les précautions ont été prises pour relever ce défi sécuritaire. Moussa Savadogo.
Lorsqu'on a la responsabilité d'organiser un événement comme le FESPACO, on a toujours d'abord l'accord de nos premiers responsables. Et on a reçu cet accord-là, ce qui revient à dire qu'ils sont conscients de la situation et qu'ils travaillent d'arrache-pied comme il y a 2 ans pour que tous nos invités qui viendront au niveau du Burkina soient en sécurité, soient logés dans de très bonnes conditions, afin que nous ayons une telle belle fête.
Pour cette compétition, 30 films burkinabais ont été sélectionnés dans les 11 catégories. Dans la catégorie long-métrage fiction, Apolline Traoré est à la conquête de l'étalon d'or de Yenenga avec son film Sira. Pour la catégorie documentaire long-métrage, nous avons Al Janat, Paradis originel de Chloé Aïcha Boro et Hors de vie de Boubacar Sangari.
Dans toutes les sections, il aura des Burkinabés qui vont concourir à des étalons de Yenenga ou à d'autres prix. Nous avons 2 en documentaire et 1 en fiction. Nous croyons fort bien qu'au soir, 4 mars 2023, au Palais des Sports de Ouagadougou, quand le président va remettre le trophée, un Burkinabé ou le Burkinabé ou la Burkinabé, parce qu'il y a une femme aussi parmi aussi, pourrait remporter l'étalon d'or du Yenenga.
Le grand rendez-vous du cinéma africain se tiendra du 25 février au 4 mars sous le thème « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Et comme film d'ouverture, c'est le film Bravo Burkina, qui est une œuvre cinématographique du Burkinabé nigérian Oejide Wale, qui a été sélectionné. Un film hors compétition qui relate le combat que mènent les Burkinabés, c'est-à-dire le retour à la paix. Rendez-vous est donc fixé le 25 février du côté de Canal Olympia Ouagadougou pour la cérémonie d'ouverture.
Tout autre sujet, souvenez-vous, accusé d'escroquerie aggravée. Plusieurs regroupements de commerçants avaient contraint l'ex-ministre du Commerce, Donatien Nagalo, à la démission le 8 novembre 2022. Aujourd'hui, il sort de son silence et donne sa part de vérité. Il s'est exprimé sur la question vendredi matin à Ouagadougou, Moumouni Yaro.
Donatien Nagalo, secrétaire général du Sinacombe, syndicat national des commerçants du Burkina, avait été nommé à la tête du ministère en charge du commerce le 25 octobre dernier. Aussitôt, plusieurs voix de commerçants s'étaient levées pour contester l'homme. Il va finalement démissionner et remplacer le lendemain 9 novembre. Selon l'accusé, ces agissements ont été à cause de l'incompréhension du fonctionnement du Sinacombe, Donatien Nagalo.
Pour ces accusations, chacun a sa manière de voir les choses. Parce que tout ce qu'on mène comme activité est régi par des tests. En réalité, les gens ne comprennent pas comment nous fonctionnons. Une structure telle que nous sommes n'est pas une structure de M. Nagalo. C'est une coopérative. Les frais d'adhésion au Sinacombe font 6 000 francs. C'est bien et bel écrit dans les statuts depuis la création que c'est 6 000. Mais nous faisons payer 3 000 francs par nos membres. Si vous regardez les reçus là, vous verrez 3 000.
Il n'a donc rien à se reprocher, renchérit-il. Par conséquent, la vérité va s'établir un jour ou l'autre, ajoute-t-il.
Ce que les gens ont dit de nous, c'est ce qu'ils pensent de nous. Il y a ce que nous sommes réellement. Il y a ce que les gens pensent que nous sommes. Et il y a ce que nous aussi nous croyons que nous sommes. Mais c'est la vérité qui va se révéler. Il n'y a rien. Nagalo n'a pas pris 5 francs. Au contraire, j'ai mis mes propres ressources. Sur les 1 milliard et quelques d'apports, j'ai apporté 2 fois ou 3 fois ce que tout le Burkina a réuni dans la coopérative. C'est-à-dire que j'ai mis 900 et quelques millions avec preuve à l'appui.
Cette réaction est intervenue lors du bilan des activités des 5 dernières années du syndicat.
Ce 14 janvier 2022, la Tunisie commémore l'anniversaire de la chute de Ben Ali dans un contexte de crise politique, sociale et économique difficile. Plusieurs manifestations sont prévues aujourd'hui dans le pays pour protester notamment contre le président Kais Saied qui s'est arrogé les pleins pouvoirs en juillet 2021. Le chef de l'État ne reconnaît pas cet anniversaire. À sa demande, la révolution tunisienne est désormais commémorée le 17 décembre, date de l'immolation du marchand Mohamed Bouazizi qui avait déclenché la colère de la rue.
Omega Sport.
Le 7e championnat d'Afrique des Nations a ouvert ses portes hier, pays hôte du CHAN 2022. L'Algérie a réussi son entrée en lice en décrochant une victoire contre la Libye 1-0 vendredi. Une compétition qui va se tenir sans le Maroc. La sélection marocaine, double tenant du titre qui attendait une autorisation des autorités algériennes, n'a pas pu s'envoler pour Constantine. Une demande d'autorisation restait lettre morte. Le tenant du titre est donc privé de cette compétition. Il est très malheureux de priver l'équipe nationale marocaine qui se préparait sérieusement depuis 6 mois pour participer au CHAN et défendre son titre, a déploré le président de la Fédération marocaine de football. Au programme ce samedi, Éthiopie-Mozambique à 13h, RDC-Ouganda à 16h et Côte d'Ivoire-Sénégal à 19h.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Depuis un certain temps, les feux tricolores de la capitale sont pris d'assaut par des femmes mendiantes avec leurs enfants en bas âge. Un phénomène qui pourrait être un danger pour le Burkina qui fait face aux attaques terroristes. C'est ce que nous dit notre invité du jour, le contrôleur général de police à la retraite, Paul Sando, ancien directeur général de la police nationale. Il vient de publier un livre qui traite du sujet, le nom de l'œuvre, de la mendicité aux opportunités ou aux enfers. Dans cet entretien réalisé par Denis Ongrana, Paul Sando nous explique ses craintes.
Paul Sando, bonjour.
Bonjour, M. Ongrana.
Alors, vous venez de faire paraître un nouveau livre, De la mendicité aux opportunités ou aux enfers. Qu'est-ce qui vous a motivé à traiter ce thème-là?
Nous constatons depuis à peu près 2020 une nouvelle forme de mendicité telle qui s'est développée dans nos grandes villes et particulièrement à Ouagadougou, qui consiste à occuper les artères de la ville par des jeunes femmes et des enfants mineurs que l'on engage entre les usagers et la main tendue. Bon, et avec tout ce qu'il y a comme risque, justement cette forme-là, elle est consécutive aux attaques terroristes. Donc on peut les mettre dans le lot des personnes des déplacés internes. Et donc du coup, étant venus par la force et des attaques terroristes, se sont trouvés une activité qui aujourd'hui reste un peu équivoque. Alors on se pose la question, est-ce que véritablement c'est le besoin de survivance qui les font séjourner dans les carrefours, ou bien il y a une autre mission, j'allais dire subsidiaire?
Et justement là-dessus, vous vous interrogez, est-ce que ce n'est pas, ce n'est pas la mission, en attendant l'assaut final, selon les termes employés dans votre livre, des groupes armés dont peut-être elles appartiennent également?
Oui, oui, justement, c'est surtout en tant que quand même personnage de sécurité. Et bon, je ne veux pas regarder de façon, j'allais dire naïve, cette présence-là. Parce que lorsque vous voyez des jeunes femmes, depuis 2020 à peu près, continuellement avec des bébés. Bon, et on n'a jamais vu leur mari. Et pourtant, on sait qu'ils font un travail. On se pose la question, et aujourd'hui, nous avons des gens qui se sont enrôlés dans des groupes terroristes et qui nous rendent la vie difficile. Alors, est-ce que ce ne serait pas aussi intéressant de chercher à faire la relation? Pourquoi leurs maris ne sont pas visibles, ni dans les camps où ils habitent, ni également à côté d'eux? Alors, on ne les voit pas non plus dans certaines activités au niveau de la ville. Alors, donc, cela est un risque.
C'est un risque, mais on voit que ce sont des femmes avec des enfants, généralement. En quoi est-ce qu'elles peuvent constituer un risque ou une complicité qui pourrait contribuer à aider, justement, leur mari, si bien sûr ils sont parmi ces groupes armés?
Le premier risque, c'est la collecte des fonds et la destination des fonds. Parce qu'il nous revient que ces femmes-là ont eu des propositions pour des travaux domestiques où la rémunération même allait souvent jusqu'à 50 000 francs mois. Mais elles ont décliné en disant que ce qu'elles font par jour est nettement supérieur à ce qu'on leur propose. Alors, si aujourd'hui il est question que, normalement, cette mendicité devrait pouvoir les amener à quitter de la mendicité. C'est-à-dire ça devrait pouvoir les amener, dès qu'ils ont l'occasion, ils devraient quitter, sauter là-dessus et ne pas être au bord de la route. Est-ce pourquoi elles persistent à y être?
Mais ici, qu'est-ce que l'État devrait faire? Vous parlez de danger.
Bon, d'abord, au nom de la loi numéro 029, je crois, du 15 août 2008, qui traite du problème de la mendicité et qui condamne toute personne qui engage une autre personne, surtout des mineurs, à la mendicité. Déjà, au nom de cette loi, l'État devrait pouvoir agir. Agir pour protéger les enfants mineurs, agir pour réprimer cette forme de mendicité. On doit se baser sur quelque chose par extrapolation pour prévenir, serait-ce que pour sauver ces enfants qui sont non seulement déscolarisés, mais qui aujourd'hui sont en train de prendre une voie d'errance préjudiciable même à notre société. Alors au nom de tout cela, on peut le cadrer. Parce que la mendicité doit pouvoir passer le mendiant de la mendicité.
Mais concrètement, pour ces femmes-ci, qu'est-ce que l'État peut bien faire?
Ah oui.
Puisque vous dites qu'elles refusent de travailler même.
Vous savez que ces enfants-là, pas les enfants seulement, même leurs géniteurs-là, c'est une catégorie de personnes qui ne se luient pas vers les documents d'état civil. Et maintenant, on a la chance, ils sont regroupés dans des camps. Alors, pourquoi l'État n'irait pas vers cette communauté-là? Essayer de les encadrer, déjà commencer à les recenser, discuter avec eux. On va savoir exactement, déceler des potentialités là-bas. On peut déceler des potentialités, mais de là à les observer comme ça, à considérer qu'ils nous font de la mendicité qui pousse le vivre. Et si vous ne savez pas ce qui est caché à l'intérieur. Et les difficultés consécutives à un phénomène ici se résout à son début. Et une fois qu'elle prend de la proportion, ça devient un problème.
Mais avec ces femmes-là, vous ne pensez pas que ça a déjà pris une proportion et ça serait facile?
Mais c'est encore plus facile maintenant qu'après. C'est encore plus facile maintenant parce que vous ne savez pas, au fur et à mesure, il faut venir les autres. Ça a commencé par quelques femmes. Aujourd'hui, ils sont des milliers. Demain, elles seront combien?
Alors ici, dans votre livre, vous faites cas que dans le passé, certaines forces occultes se sont appuyées sur des mendiants pour pouvoir venir à leur projet. Pour nous revenir ces dangers que le Burkina Faso aussi pourrait subir?
Mais oui, vous savez que le problème des renseignements, c'est quoi? Le renseignement humain, c'est quoi? C'est infiltrer quelqu'un au nom de quelque chose pour pouvoir soutirer une information que l'on recherche. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, autant, si elles sont de bonne foi, l'État peut les utiliser pour avoir des informations? Si elles sont de mauvaise foi, alors elles utilisent leur position pour donner des informations au camp adverse. Ça, c'est dans les deux cas. Mais dans tous les cas, si l'État refuse de les exploiter, ils vont exploiter l'État pour les autres. Et ça va compliquer la situation.
On lit votre document. Je pense que la crainte même, c'est qu'on ne sache pas où se trouvent les époux de ces femmes, pourtant avec des bébés au dos qu'elles trimballent au niveau des feux.
Permanemment des bébés. Et c'est ça la réalité. Et on ne voit pas leurs maris, puisqu'ils ont leur camp. Les hommes n'habitent pas dans les camps, même au retour de leur mission de mendicité. Alors qu'il y a d'autres catégories de mendiants, où effectivement, quand vous allez à Kaya, même souvent à Pazani, ou des trucs comme ça, vous voyez les femmes le matin, ils envahissent les quartiers. Il y en a qui font des petits travaux, les hommes aussi font des petits travaux. Mais le soir venu, toute la famille se retrouve et ils essaient de voir ce qu'ils ont pu voir et pour résilier un peu à la préoccupation.
On parlait des PDI, des personnes déplacées.
Voilà. Voilà. Alors donc du coup, mais ici là, on ne voit que les femmes, on ne voit pas les hommes. Où sont les hommes? Et un phénomène se résout facilement à son état précaire.
Merci Paul Sondo.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction.
À l'instant, notre invité Paul Sondo, contrôleur général de police à la retraite. Ce journal a été réalisé par Adama Konaté à la retransmission Facebook Ibrahim Niaoné. Excellent après-midi à toutes et à tous.
Radio Omega, l'info en direct.